DW. Pulsation.
L'enseignement scolaire de l'histoire du continent en Afrique francophone revêt une importance particulière depuis les indépendances. Qu'en est-il 60 ans après ? Réponse avec l'historien et professeur émérite de l'université de Bamako, Doulaye Konaté. En fin d'émission, hommage à l'inventeur du reggae, Toots Hibbert, décédé vendredi dernier. Mais tout de suite, le mot du jour, démocratie. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
Aujourd'hui, comme tous les ans le 15 septembre, on célèbre la Journée internationale de la démocratie. L'occasion pour nous de nous pencher sur la signification du terme. Alors, la démocratie, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, sa racine est grecque. Il vient des deux mots « demos », qui signifie « peuple », et « kratos », qui veut dire « pouvoir », « autorité ». Une démocratie, c'est donc un régime politique dans lequel la souveraineté émane de l'ensemble des citoyens. Le pouvoir n'est pas concentré dans les mains d'une seule personne ou d'un petit groupe, comme c'est le cas dans une dictature, une monarchie absolue ou un régime totalitaire. La démocratie est souvent pratiquée de manière représentative, c'est-à-dire que c'est le peuple qui désigne par le biais d'élections des représentants pour exercer le pouvoir en son nom. Un des principes les plus importants sur lesquels repose la démocratie est ce que l'on appelle la séparation des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Autrement dit, ceux qui font les lois n'ont pas d'influence sur ceux qui les font respecter et encore moins sur ceux qui jugent si la loi a été enfreinte ou pas. L'Organisation des Nations Unies a instauré cette journée internationale en 2007 car elle estimait qu'il est essentiel pour renforcer la démocratie de veiller au respect des droits de l'homme et de lutter contre les inégalités aussi bien économiques que politiques. Et pour illustrer le mot du jour, voici Didier Awadi dans un morceau dont le titre est un oxymore, c'est-à-dire une figure de style qui allie des mots de sens contradictoires. Coup d'État démocratique.
Number one dans la bêtise. Des gens en armes, soi-disant me démocratisent. Fini la voix des urnes, c'est la voix des armes. Fini le choix du peuple, c'est le choix des larmes. Personne n'a jamais vu de feu éteint par un pyromane. Jamais vu de bombe dirigée.
Vous écoutez la DW, c'est Pulsation, le magazine Jeunes et Culture. Nous allons à présent parler d'histoire. De nombreux pays du continent africain commémorent cette année les 60 ans de leur indépendance. Or, le colonialisme a eu une forte influence sur l'enseignement prodigué dans les pays colonisés, notamment concernant l'histoire. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, nous allons en parler avec notre invité, le professeur d'histoire émérite de l'université de Bamako, Doulaye Konaté. Également président de l'Association des historiens du Mali et ancien président de l'Association des historiens africains, M. Konaté évoque d'abord l'histoire générale de l'Afrique, une œuvre quasi encyclopédique d'écriture de l'histoire du continent en 8 volumes.
Le père de l'histoire africaine, moderne j'entends, leur ambition c'était que cette œuvre colossale puisse trouver une application pédagogique. Ça n'a malheureusement pas été le cas, parce que vous savez que le dernier volume de l'histoire générale a été produit dans les années 90, et de la fin de cette production jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment d'utilisation systématique des contenus de l'histoire générale de l'Afrique. Et c'est dommage, parce que cette histoire générale de l'Afrique était une entreprise donc de réécriture de l'histoire africaine, pas simplement par des Africains, parce que ça, on se trompe souvent là-dessus, par les meilleurs spécialistes de l'époque de l'histoire de l'Afrique. C'est à peu près 350 intervenants sur lesquels vous avez plus du tiers qui sont des savants non-africains. C'est important de le dire. Ces dernières années, à la demande de l'Union africaine, l'UNESCO a eu une mission de réfléchir à l'utilisation de ces 8 volumes, enfin, leur traduction pédagogique. Ça s'adressait plutôt aux écoles primaires et aux écoles secondaires. Et donc, ce travail a été confié à l'UNESCO et un comité scientifique international a été mis en place. J'ai l'honneur d'appartenir à ce comité-là. Et depuis des années, nous travaillons à traduire donc les contenus des 8 volumes, en sortir des contenus d'enseignement. Voilà.
Qu'est-ce qui change finalement par rapport à l'histoire qui avait été enseignée jusqu'à présent, aussi sous la colonisation ?
Vous savez, déjà dans les années justement de l'indépendance, on pensait à juste titre à décoloniser l'enseignement de l'histoire. C'était fondamental. comme on disait au Mali d'ailleurs à l'époque, dans les années 60, il fallait décoloniser les esprits. Et décoloniser les esprits, ça commence par décoloniser justement le contenu des programmes d'histoire, entre autres. Et donc, il y a ce qu'on appelle les programmes de Madagascar, parce que ça a été élaboré à Tananarive dans les années 60. Ces programmes ont tenté d'africaniser les programmes, d'y mettre des contenus qui faisaient état de l'histoire africaine. Ce n'était pas le cas pendant toute la colonisation.
Vous pouvez nous donner un exemple, M. Konaté ?
Oui, pendant la colonisation, l'Afrique était quasiment... Et quand elle était évoquée à l'école, c'était anecdotique, puisqu'elle ne faisait pas partie de l'histoire. Nos aînés, nos parents ont appris, eux, que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Lorsqu'on parlait de l'Afrique, c'était l'histoire des Européens en Afrique. C'était l'Afrique inventée par la technologie coloniale et qui tenait lieu d'histoire africaine. Donc il a fallu donc d'abord écrire cette histoire-là, et c'est à ce à quoi se sont attachés les pionniers qui ont produit ces 8 volumes de l'histoire de l'Afrique.
C'est-à-dire que finalement, au-delà du fait qu'il a fallu compléter l'histoire de l'Afrique, donner plus d'importance à l'Afrique et changer un peu de perspective, il y a aussi des choses fausses qui avaient été enseignées à l'époque sous la colonisation ou pas ?
Tout à fait. Toutes les colonisations procédaient comme ça, y compris la romaine. C'est de commencer d'abord par inférioriser quand ce n'est pas déshumaniser l'autre. À le présenter comme un être qu'il faut faire avancer, comme dirait Jules Ferry. Et dès lors qu'on veut civiliser l'autre, il faut commencer d'abord par montrer justement que voilà, il est déficitaire de tout. Même lorsqu'on parlait de l'histoire africaine, parce qu'on en parlait, il ne faut pas non plus croire. Dans les colonies françaises, par exemple, on parlait d'Afrique, mais cette Afrique-là était présentée justement comme un monde totalement de l'obscurité auquel la colonisation devrait apporter les lumières. Ça relevait d'une logique qui était celle de dire il y avait une histoire, mais cette histoire n'était pas évoluée. Vous l'avez entendu encore dernièrement, n'était pas rentrée dans l'histoire.
Oui.
Puisqu'on n'est pas rentré dans l'histoire.
Ça nous dit quelque chose donc, du côté de Dakar, oui.
Oui, quelque chose comme ça du côté de Dakar, auquel nous avons d'ailleurs réagi parce que, pour les gens de mon âge, il n'y avait pas de danger, mais le danger était pour les jeunes, les plus jeunes, qui sont peut-être moins outillés pour recevoir ce type de message. Donc voilà.
Vous d'ailleurs, vous avez, lorsque vous étiez jeune, que vous étiez à l'école, vous n'avez pas pu bénéficier d'un enseignement déjà rénové de l'histoire africaine.
Ça commençait à peine, parce que j'ai fait partie de la génération qu'on dit de l'indépendance. Il y avait 8 ans au moment de l'indépendance. Et donc, nous avons été les tout premiers à bénéficier justement d'un enseignement d'histoire dit africanisé, avec un programme africanisé. C'est ainsi que je pense que nous avons eu le privilège justement d'entendre parler des empires africains, de préhistoire africaine, d'étudier au plan de la géographie la plupart des pays africains, tous les pays africains. Dans le cas du Mali qui avait un engagement panafricaniste, qui ne s'est jamais démenti, on étudiait tous les pays africains tour à tour. Et on avait en tout cas le béaba de l'histoire africaine dans ses grandes étapes.
Monsieur Doulaye Konaté, vous m'avez dit au début de cet entretien que, en fait, on avait bien commencé avec l'histoire générale de l'Afrique, dont la première phase s'est déroulée de 1964 à 1999. Et depuis la phase 2, qui a commencé un peu plus tard, on est un peu resté figé. On n'est pas finalement arrivé à l'objectif encore. Et pourquoi, à votre avis ?
La volonté, c'est de faire que cette œuvre soit enseignée. Et donc, c'est cette seconde phase qui n'a pas pu être réalisée. Et lorsque on s'est mis à vouloir le faire au tournant des années 2008-2009, on s'est aperçu que l'œuvre qui tenait bon dans ces grandes lignes avait besoin quand même de toilettage. Parce que la recherche avance très vite. Et cela nous a conduit à prolonger l'histoire générale de l'Afrique. Nous sommes en train de terminer 2 volumes de l'histoire générale de l'Afrique. Il y a non seulement l'actualisation des connaissances des 8 premiers volumes, parce qu'il a fallu tenir compte des progrès fantastiques qui ont eu lieu. Et puis, il a fallu surtout consacrer plus de place aux diasporas, qui constituent la 6e région de l'Afrique, nous ne l'oublions jamais.
Du coup, le matériel pédagogique met un peu de temps à être mis en place, c'est bien ça ?
Oui, le matériel pédagogique est aussi, comme on dit, c'est dans le pipeline, mais on attend Parce que c'est un travail-là qui allait au-delà des compétences des historiens. Il fallait faire appel aux didacticiens.
Bien sûr.
Parce que dès qu'on va aller vers l'enseignement, ça devient très technique. La pédagogie est une spécialité à part. Et les enseignants du supérieur ne sont pas forcément des pédagogues. Pas toujours.
Et donc, on a dû faire appel. En tout cas, pas pour les enfants de cet âge-là.
Surtout pas pour les enfants-là, j'entends bien. Il faut savoir reconnaître les limites. Donc, nous avons dû faire appel à la collaboration de didacticiens et c'est ce qui fait que ce travail prend un peu de temps à aboutir.
Voilà donc pour la première partie de cet entretien avec le professeur d'histoire émérite de l'Université de Bamako et actuel président de l'Association des historiens du Mali, Doulaye Konaté. Nous le retrouverons la semaine prochaine pour parler de l'enseignement de l'histoire africaine en Afrique francophone, 60 ans après les indépendances.
Coup de projecteur.
Yes, sir. One, two.
The Reggae, chanson enregistrée en 1968 et qui est considérée comme étant à l'origine du reggae. Elle est l'œuvre du grand chanteur jamaïcain Toots Hibbert, figure historique du reggae qui est mort vendredi à l'âge de 77 ans à Kingston. Bien qu'il soit moins connu que son compatriote Bob Marley, Toots Hibbert, dont on comparait la voix à celle d'Otis Redding, a fait une longue carrière avec son groupe de toujours, les Maytals. Il écumait encore les scènes à travers le monde jusqu'en 2018 avec un mélange de ska, rocksteady et reggae. Entre 1964 et 2010, le groupe, très prolifique, a sorti une soixantaine de disques. Mais l'un de ses grands succès restera 5446, That's My Number, 5446, C'est Mon Numéro, une chanson maintes fois reprise et samplée dont le titre se réfère au numéro de Toots Hibbert lors d'un séjour en prison. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Pulsation. Merci de l'avoir suivi. Vous accédez au podcast sur dw.com/français, rubrique médiathèque. Excellente suite de programmes sur la DW. Salut! Yeah, well,